Alexandre Dubé.
Les vrais enjeux, les vraies questions.
Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité et sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé.
Quelle sera l'ampleur du prochain déficit annoncé lors du budget de la ministre Chrystia Freeland, elle qui souhaite maintenir sous la barre des 40 milliards le déficit? Est-ce que ce sera réaliste avec la quantité assez impressionnante d'annonces qui nous ont été faites par M. Trudeau lors de ce striptease pré-budgétaire où on a amplement empiété dans les champs de compétences des provinces, notamment du Québec? Madame Freeland a respecté la tradition, elle a opté pour des nouvelles chaussures pré-budgétaires. Une paire de chaussures à 230 $ avant taxe de l'entreprise québécoise Meguiar Shoes, fondée par deux sœurs dans la tranche d'âge qui est courtisée par les libéraux, c'est-à-dire les millénarios. Parce que lorsqu'on regarde les annonces effectuées par M. Trudeau dans les jours qui ont précédé le budget, on visait qui? On visait les jeunes et on visait entre autres l'électorat féminin. Deux catégories d'âge qui étaient plutôt favorables à M. Trudeau, mais lorsqu'on regarde la tendance dans les sondages, et puis le dernier sondage démontrait aussi l'effritement du vote. Écoutez, on a 20 points d'avance des conservateurs sur les libéraux. Ben, on visait ces catégories d'électeurs qui avaient quand même contribué à porter et à garder au pouvoir M. Trudeau au fil des ans. Maintenant, pour respecter un certain équilibre, lorsqu'on, par exemple, multiplie les annonces, multiplie les programmes d'aide en quelque sorte, mais pour respecter un certain équilibre en fonction du PIB, il faudra avoir de nouvelles sources de revenus. Et là, il y a des informations qui commencent à circuler, notamment dans le Globe and Mail ce matin, où on nous apprend qu'essentiellement, on va cibler les Canadiens les plus fortunés. Maintenant, à partir de quelle barre on est considéré comme une personne fortunée, ce serait le fameux 1%, donc des gens qui gagnent là, plusieurs centaines de milliers de dollars par année. Bon, 100 000, là, je vous rassure, beaucoup plus élevé que ça. Et les grandes corporations. Ce seraient donc les deux cibles du gouvernement Trudeau pour aller chercher davantage d'argent. On pourrait taxer davantage le gain en capital aussi. Ça fait partie des informations qui ont circulé énormément. On sera fixé en fin de journée, c'est à ce moment-là que le budget sera présenté à la Chambre des communes. Vous savez, il y a des décisions dans la vie qui sont prises par des fonctionnaires bien assis en arrière de leur bureau et qui n'ont pas souvent mis le nez dehors. Écoutez bien celle-là. À Montréal, un coin qui est absolument magnifique, j'ai déjà habité d'ailleurs dans le secteur, le canal Lachine, Griffintown, très agréable de s'y promener. Mais là, les citoyens sont en furie. Pourquoi? Parce que Parc Canada a décidé de retirer une trentaine de poubelles publiques. Là, tu te dis, voyons, tirer des poubelles publiques à un moment où on n'arrête pas de critiquer que la ville de Montréal est sale. Là, dans ce cas-ci, ce n'est pas une décision de la ville, ils n'ont rien à voir là-dedans. Mais Parc Canada a décidé de retirer une trentaine de poubelles. Pourquoi? Et là, moi, c'est l'explication des fonctionnaires. Là, c'est fort. On dit dans le journal, cette initiative vise à responsabiliser les citoyens quant à la gestion des déchets destinés aux sites d'enfouissement. Elle vise aussi à arrêter le dépôt de déchets domestiques dans les conteneurs destinés aux visiteurs. Et là, je suis rassuré. Là, il y a une campagne de sensibilisation qui est en préparation. Alors, les gratteux de papier de Parc Canada disent, on va retirer toutes les poubelles, ou presque, une trentaine en tout cas, puis après, là, on va faire une campagne de sensibilisation. Qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? Avec le manque d'incivilité de la part de certaines personnes? Ben là, t'as des petits sacs avec des petits cadeaux de chiens qui sont déposés un peu partout, des déchets qui sont jetés par terre. Et là, il y a une réaction de la part de Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, qui dit « C'est une absurdité. C'est pas en retirant les poubelles qu'on va éduquer les gens, on va juste attirer la saleté supplémentaire. » Je n'ai rien à ajouter. Je suis entièrement d'accord avec ça. C'est une décision complètement ridicule. C'est à la une et en manchette à plusieurs endroits également, le fameux pont de l'île d'Orléans. On en sait davantage, ce sera confirmé d'ailleurs en point de presse par la ministre des Transports Geneviève Guilbeault et son collègue responsable de la capitale nationale, Jonathan Julien. Le nouveau pont de l'île d'Orléans va coûter 2,75 milliards de dollars. Ça fait une vingtaine d'années au moins qu'on l'attend. Et la facture est tellement élevée, nous apprend notre collègue Marc-André Gagnon du journal, que le gouvernement Legault a même hésité à aller de l'avant. Sa livraison qui est prévue pour l'été 2028 et parmi les trois consortiums qui étaient en lice, c'est finalement le groupe Héritage Île-d'Orléans qui a remporté la mise avec la soumission la plus basse. Quelques caractéristiques de ce nouveau pont, longueur d'un peu plus de 2 km, comprendra une voie de circulation par direction, deux fois plus large que sur le vieux pont. Les cyclistes pourront profiter d'une piste polyvalente de part et d'autre. Travaux préparatoires ont commencé en août 2022. Et après la mise en service de la nouvelle infrastructure, on vise août 2028. Le pont actuel sera démoli au plus tard en 2033. À la une de la presse, il y a une enquête qui est choquante, qui raconte l'histoire d'un enfant de 9 ans, un enfant autiste, un enfant déficient intellectuel, qui avait été confié à l'unité Le Jardin du 6 de Laval. Devait faire de la réadaptation à cet endroit-là. Or, aujourd'hui, les parents de l'enfant poursuivent le 6 de Laval pour 1,5 million de dollars en dommages. L'enfant aurait subi des fractures, aurait eu des ecchymoses inexpliquées, des caries, des problèmes de peau, on aurait négligé des soins d'hygiène. Bref, l'enfant aurait été maltraité, négligé et privé de ses outils de communication, selon cette enquête de la presse. Et alors qu'à la une du Devoir, ce sont des intervenants de la DPJ qui se sentent délaissés dans les ententes du Front commun et affirment qu'essentiellement le ministre responsable des services sociaux, Lionel Carman, n'aurait pas dû évoquer un rattrapage salarial l'automne dernier parce que ces intervenantes regardent le chemin parcouru et se disent ben finalement on a été négligé sur la scène culturelle. L'armurière du film Rust, produit par Alec Baldwin, souvenez, sur lequel le tournage avait tourné au drame alors que la directrice photo avait été tuée par un tir accidentel, alors que Baldwin tenait l'arme, eh bien, l'armurière vient d'être condamnée à 18 mois d'emprisonnement par la justice américaine Anna Gutierrez Reed. Faut pas oublier qu'Alec Baldwin aussi est accusé d'homicide involontaire. Il risque lui aussi 18 mois de prison et il sera jugé en juillet 2024. Bienvenue à Cube, voici votre nouvel épisode.